Osée chapitre 12, verset 14. Et par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Par un prophète, Israël fut gardé. Bonjour à tous frères et sœurs, je vous souhaite un très bon sabbat pour ceux qui le commencent, pour ceux qui le terminent, que Dieu vous bénisse malgré tout. C'est une horaire tardive pour les Européens et de bon matin pour ceux qui se trouvent de l'autre côté de l'Amérique, notamment dans l'océan Pacifique. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une conclusion à notre série sur le don prophétique. Et cette conclusion, elle sera bien entendu focalisée sur le don prophétique tel qu'il a été manifesté dans la vie d'Ellen G. White. Donc, pour revenir en arrière ici brièvement, je vous rappelle que nous avions vu à l'issue de notre message précédent que la parole de Dieu nous annonce que la présence du témoignage de Christ dans l'Église de Dieu avant le retour de Jésus-Christ est le moyen par lequel Dieu entend préparer entièrement son peuple pour cet événement et pour cet avènement. C'est ce que nous avions vu dans les paroles de 1 Corinthiens chapitre 1 versets 6 à 8. Et je tiens à vous préparer, à vous dire à l'avance que cette étude risque d'être inévitablement plus longue que celle que j'ai l'habitude de faire, parce que j'aurais besoin, afin de réellement approfondir ce sujet du don prophétique dans la vie d'Ellen G. White, de lire beaucoup de choses. Donc, si vous n'avez pas le temps, je vous invite à revenir à cette méditation lorsque le temps vous le permet, afin que vous puissiez parcourir la totalité des choses que je vais lire pour nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 6 à 8, c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Nous lisons, selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que Dieu a pourvu à rendre son peuple irrépréhensible au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire lors de son second avènement, selon, verset 6, que le témoignage de Christ est confirmé en nous, c'est-à-dire parmi nous, à la fois de manière personnelle et de manière commune, c'est-à-dire que dans l'Église, le témoignage de Christ doit être confirmé et dans le cœur de chaque individu, ce témoignage doit être confirmé. Nous avons besoin d'avoir l'assurance qu'il est le moyen que Dieu a pourvu pour nous préparer. Si nous n'avons pas cette assurance, nous ne pouvons pas être rendus irrépréhensibles pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voyons ici que c'est un réconfort à double tranchant, pour ainsi dire, à savoir que ce témoignage doit être confirmé en nous, tant en tant qu'Église qu'en tant qu'individu en particulier. Et pour faire le pont avec la méditation que nous avions eue la dernière fois et celle que nous cherchons et désirons avoir aujourd'hui, j'aimerais vous lire la citation suivante qui se trouve encore une fois dans le livre du frère J.N. Loughborough, dans ce livre The Prophetic Gift in the Gospel Church. Et ici, cela se trouve tout particulièrement à la page 35 jusqu'à la page 40. où nous lisons ici. Parce que la dernière fois, je vous ai rappelé que notre méditation portait sur le don prophétique dans les derniers jours. Et juste pour revenir en arrière, nous avions vu la manifestation réapparition progressive du don prophétique dès lors du temps de la réforme protestante au XVIe siècle. Nous avons lu brièvement certains passages bibliques, tout particulièrement. Nous avons vu que la femme était allée dans le désert pendant des temps, c'est-à-dire deux temps, un temps et la moitié d'un temps, pour s'abriter, se mettre à l'abri du fleuve qui sortait du dragon. Ensuite, nous avons vu qu'après que la femme s'enfuit au désert pendant 1260 jours prophétiques, c'est-à-dire 1260 ans, à l'abri des persécutions de la papauté, au verset 15 et 16 d'Apocalypse chapitre 12, la réforme protestante a secouru la femme, l'Église, et au verset 17, la parole nous présente la femme dans une différente période, à savoir celle de Philadelphie et surtout de Laodicée. Et nous lisons que le diable était en colère contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, on avait pu parcourir la parole de Dieu pour voir réellement la présence à travers la Bible du don prophétique dans les derniers jours. Et maintenant, nous faisons le pont. Nous faisons le pont entre ce que nous avions vu précédemment et ce que nous cherchons à voir aujourd'hui. Voilà ce que l'historien, ou du moins le frère, qui avait beaucoup de connaissances, c'est d'ailleurs lui qui a écrit ce fameux livre, je crois que c'est Le Grand Mouvement Adventiste, en français c'est comme ça, et en anglais c'est History of the Great Second Advent Movement. The Great Second Advent Movement, c'est le titre en anglais, que certains d'entre vous d'ailleurs sont en train de lire, et c'est lui qui a écrit ce livre-là sur l'histoire de l'Église adventiste en général. Et ce même homme qui a écrit ce livre a écrit ce livre que je suis en train de beaucoup citer depuis quelques jours et que je vais beaucoup citer également aujourd'hui, à savoir le don The Prophetic Gift in the Gospel Church. Je vous le traduis, le don prophétique dans l'Église évangélique. Et donc, vous pouvez comprendre la raison des titres que j'ai donnés à mes messages précédents. Je ne fais que du copier-coller, toutefois, je comprends et je médite sur ce que je lis avant de vous le partager de telle sorte que ce ne soit pas juste du perroquet. Et donc, je continue. Donc, ici, dans ce livre de Prophetic Gift in Gospel Church, à la page 35, il dit ceci. C'est parti. Depuis 1833, mais plus particulièrement depuis 1840, un message retentit sur la terre, annonçant le retour imminent de Christ à la porte. En lien avec cette proclamation, le Seigneur s'est plu à manifester la puissance de son esprit de diverses manières et de façon marquée. Dans de nombreux cas, non seulement en Amérique, mais aussi dans d'autres pays, le Seigneur a fait preuve de bienveillance à l'égard de son peuple qui était engagé dans la proclamation de la bonne nouvelle du retour de notre Seigneur, en lui parlant par le don de prophétie. Nous attirons ici l'attention sur quelques exemples de ce genre en Amérique. Il parle de plusieurs exemples, notez bien ici. Et vous voulez être bien attentif aux exemples qu'il est ici en train de citer parce que cela ouvre la voie vers la manifestation du don prophétique dans la vie d'Ellen G. White. Mais remarquez ici que cela n'a pas commencé par elle. Remarquez, frères et sœurs. Parce que certains, souvent aujourd'hui, disent « Mais comment ça, Dieu, il a pris une femme? C'est pas un peu contradictoire avec les choses qui sont écrites dans la Bible? » Vous voyez? Mais si vous regardez bien, vous allez comprendre pourquoi. Il dit, parmi ces fameux exemples de la manifestation du don de prophétie par lequel Dieu a aidé son peuple en ces jours, vis-à-vis de la proclamation de la bonne nouvelle du retour du Seigneur Jésus-Christ. Le premier exemple est celui-ci. Le premier d'entre eux est celui d'un homme pieux. C'est-à-dire le premier exemple est celui d'un homme pieux. un pasteur bien éduqué et talentueux du nom de William Foy, qui résidait à Boston dans le Massachusetts. À deux reprises, au cours de l'année 1842, le Seigneur s'approcha de lui au point de l'envelopper d'une sainte vision. L'une de ces occasions eut lieu le 18 janvier et l'autre le 4 février 1842. Sur invitation, il se rendit de ville en ville pour raconter les choses merveilleuses qu'il avait vues et pour accueillir les vastes foules qui se rassemblaient pour l'écouter, de grandes salles furent réservées où il racontait à des milliers de personnes ce qui lui avait été montré du monde céleste, de la beauté de la Nouvelle Jérusalem et des armées angéliques. S'attardant sur l'amour tendre et compatissant de Jésus pour les pauvres pécheurs, il exhortait les inconvertis à chercher Dieu, et des dizaines de personnes répondaient à ces tendres exhortations. L'œuvre de M. Foy se poursuivit jusqu'en 1844, vers la fin des 2300 jours de Daniel, chapitre 8, verset 14. On était bien dans cette période de la proclamation du premier ange, d'Apocalypse, chapitre 14, verset 6 à 7. C'est pour ça que c'est mentionné ici, parce que c'était bien quelque chose dans laquelle œuvre il était impliqué. Et vers la fin donc de ces 1200-300 jours de Daniel 8-14 jusqu'en 1844, nous disons qu'il fut alors privilégié par une autre manifestation du Saint-Esprit. Une troisième vision lui fut donnée, une vision qu'il ne comprit pas. Dans cette vision, on lui montra le chemin du peuple de Dieu jusqu'à la cité céleste. Il vit une grande plateforme sur laquelle de nombreuses personnes se rassemblaient. De temps en temps, l'un d'eux tombait de cette plateforme, disparaissait à la vue de tous, et l'on disait de lui, de point, apostasié. Il vit ensuite les gens s'élever sur une deuxième plateforme, et quelques-uns d'entre eux tombaient également à travers la plateforme, disparaissaient à la vue de tous. Enfin, une troisième plateforme apparut qui s'étendait jusqu'aux portes de la ville sainte. Une grande foule se rassembla avec ceux qui étaient montés sur cette plateforme. Comme il, William Foy, s'attendait à ce que le Seigneur Jésus vienne dans très peu de temps, il ne reconnut pas le fait qu'un troisième message devait suivre les premiers et deuxièmes messages d'Apocalypse chapitre 14. La vision lui parut donc inexplicable et il cessa de parler en public. Après la fin de la période prophétique, en 1845, il entendit Mademoiselle E.G. Harmon raconter la même vision avec l'explication que, elle cite, il cite que les premiers et deuxièmes messages avaient été donnés et qu'un troisième devait les suivre. Peu de temps après, cependant, Monsieur Foy tomba malade et mourut. Vous voyez donc que le don de prophétie a été accordé à cet homme William Foy, qu'il reçut une vision de trois plateformes, mais ne comprenant pas cette vision de la troisième plateforme, il cessa de parler en public. Vous comprenez? Nous allons revenir à cela. Cela continue ici. Un autre exemple de la manifestation du don de prophétie est celui d'un jeune homme qui résidait à Poland, dans le Maine, du nom de Hazen Foss. Donc c'est encore aux États-Unis d'Amérique. Le Maine, c'est l'Est. C'était un homme d'une belle apparence, éloquent et ayant reçu une bonne éducation académique. Au mois de septembre 1844, environ 6 semaines avant la fin des 2300 jours, le Seigneur lui donna une vision dans laquelle il vit, comme M. Foy avant lui, les trois plateformes du sentier céleste. Vous voyez donc, William Foy a reçu des visions à partir de 1842, puis en 1844, juste avant la fin des 2300 jours, des 2300 jours prophétiques, il reçut une autre vision dans laquelle il vit trois plateformes, après quoi il cessa de parler en public. La vision l'incommodait. Elle ne correspondait pas à ce qu'il avait compris, à ce à quoi il s'attendait. Après cela, vraisemblablement, après qu'il ait, pour ainsi dire, rejeté la lumière que Dieu lui donnait, est venu le cas de Hazen Foss, un jeune homme qui résidait à Poland dans le Maine. Un homme d'une belle apparence, éloquent, ayant reçu une bonne éducation académique. Autrement dit, on ne pourra jamais reprocher à Dieu de n'avoir pas choisi, pour commencer, les plus qualifiés, n'est-ce pas? Qui plus est des hommes. Donc au mois de septembre 1844, environ 6 semaines avant la fin des 2300 jours, c'est-à-dire qui expirerait le 22 octobre 1844. Vous voyez donc, c'est comme si au début c'était censé être Monsieur Foy, et là au dernier moment il a abandonné, et ensuite Dieu cherche quelqu'un d'autre. Vous voyez, à très peu de temps de la fin de la période prophétique. Au mois de septembre 1844, environ 6 semaines avant la fin des 2300 jours, le Seigneur lui donna une vision dans laquelle il vit comme Monsieur Foy avant lui les trois plateformes du sentier céleste. Donc, rebelote. La même vision. Il reçut également des messages d'avertissement individuels qu'il était chargé de transmettre. En lien avec cela, il, donc Hazen Foss, vit les épreuves et les persécutions qui s'ensuivraient s'il se montrait fidèle dans la transmission de ce qui lui avait été montré. Comme il s'attendait à ce que le Seigneur vienne dans quelques jours encore, comme on chantait alors, il ne comprit pas la troisième étape, entre parenthèses, plateforme, la troisième plateforme. Il ne comprit pas la troisième étape du voyage et, se dérobant devant la croix, il refusa de raconter la vision. On lui répéta la vision et, en outre, on l'avertit que s'il refusait encore de raconter ce qui lui avait été montré, le fardeau lui serait ôté et il serait confié à l'un des plus faibles des enfants du Seigneur, la personne qui raconterait fidèlement ce que Dieu lui révélerait. Il, Foss, Hazen Foss, refusa à nouveau. Puis, il reçut une troisième vision, très courte, dans laquelle on lui dit qu'il avait été libéré. Et il vit la personne à qui le Seigneur avait confié le fardeau, entre guillemets, l'une des plus faibles parmi les faibles qui ferait ce que le Seigneur lui ordonnerait. Hein? Ça continue, le jeune homme fut effrayé et organisa immédiatement une réunion sur la colline MacGuy à Poland dans le Maine afin de raconter ce qui lui avait été révélé. Les gens se pressèrent pour le voir et l'entendre. Il raconta avec soin son expérience, la manière dont il avait refusé de raconter ce que le Seigneur lui avait montré et ce qui résulterait de ce refus. Maintenant, dit-il, je vais vous raconter la vision. Il s'adressait à la foule qu'il avait rassemblée sur la colline MacGuy. Maintenant, dit-il, je vais vous raconter la vision. Mais hélas, les guillemets sont terminés, ensuite il y a écrit, mais hélas, il était trop tard. La vision lui avait échappé. Il ne pouvait s'en rappeler un seul mot. Il se tordit les mains d'angoisse en disant, Dieu a accompli sa parole, il m'a ôté la vision. Je suis un homme perdu. À partir de ce moment-là, l'homme a vécu sans espérance. Il est mort en 1896. Depuis 1844, cet homme était sans espérance. 50 années, quoi. Je crois que c'est 50 années, oui, c'est ça. Cela continue. Environ 2 mois après la fin des 2300 jours, vers le 1er janvier 1845, Mademoiselle Ellen G. Harmon de Portland, dans le Maine, alors âgée d'un peu plus de 17 ans, commença à recevoir des révélations de la part du Seigneur. Elle était alors dans un état de santé très critique, étant en effet, comme il avait été dit à Foss au sujet de l'instrument que Dieu choisirait, entre guillemets, la plus faible des faibles. Pourquoi la plus faible des faibles? Parce que la femme est déclarée être le vase fragile. Hein? Ou en anglais, the weaker vessel, le vase le plus fragile. Et dans l'anglais, ça serait la plus fragile des fragiles, si vous traduisez mot à mot différemment. Donc c'est ça, c'est-à-dire c'est une femme plus fragile encore que toutes les autres femmes. Pourquoi? Parce qu'elle était, je cite, dans un état de santé très critique. Une blessure reçue à l'âge de 9 ans l'avait presque fait saigner à mort. Par la suite, elle n'avait jamais pu aller à l'école. Pendant plusieurs semaines avant sa première révélation, elle avait à peine pu parler au-delà d'un murmure. Un médecin diagnostiqua chez elle une tuberculose aiguë avec le poumon droit décomposé et le gauche très malade. Et pour aggraver son cas, son cœur était également atteint. Tout cela rendait sa guérison incertaine. En fait, le médecin pensait qu'elle ne pourrait vivre que très peu de temps au plus et qu'elle risquait de succomber d'un moment à l'autre. Elle avait beaucoup de mal à respirer lorsqu'elle était allongée et la nuit, elle ne pouvait se reposer qu'en se soutenant dans le lit, dans une position presque assise. De fréquentes crises de toux et des hémorragies pulmonaires avaient considérablement réduit sa force physique. À l'époque, elle ne pesait que 70 livres, à savoir 31 kilogrammes. Ça continue. Dans cet état de faiblesse, elle reçut en vision l'instruction d'aller raconter aux autres ce que le Seigneur lui avait fait connaître. La même instruction qui avait été donnée à Foy et à Hazen-Foss. Elle reçut cette instruction en vision d'aller raconter à d'autres ce que le Seigneur lui avait fait connaître. Elle reçut l'ordre de se rendre à Pollen, dans le Maine, l'endroit où Hazen-Foss n'avait pas réussi ou avait manqué de raconter, n'avait pas réussi à raconter la vision qui lui avait été donnée. C'est là qu'elle raconta ce que le Seigneur lui avait montré. Dans une pièce voisine, Foss entendit le récit et, après la réunion, il fit remarquer aux autres, deux points, entre guillemets, la vision rapportée par Hélène est aussi proche de ce qui m'a été montré que si deux personnes devaient raconter la même chose. Voyez, Dieu ne fait pas exception de personne. Ce qu'il a révélé à Sir White, c'était ce qu'il avait révélé à William Foy et à Hazen-Foss précédemment, mais qu'il n'avait pas voulu transmettre. Je continue. Le lendemain matin, en voyant Mademoiselle Harmon, c'était son nom de jeune fille, Foss déclara, deux points, c'est l'instrument ou voilà l'instrument sur lequel le Seigneur a placé le fardeau. Parce que Dieu lui avait dit, si tu ne veux pas, je vais. Non, plutôt, tu ne veux pas, et maintenant je vais confier cette tâche à la plus faible des faibles. Et lui, plus tard, il vit que c'était elle que le Seigneur lui avait montré. Voilà l'instrument sur lequel le Seigneur a placé le fardeau. Il dit à Mademoiselle Harmon, sois fidèle en portant le fardeau qui a été placé sur toi et en rapportant les témoignages que le Seigneur te donnera. Et tu arriveras jusqu'au royaume. Puis, angoissé, il s'exclama, Oh, je suis un homme perdu! Voilà donc le récit qui nous est rapporté par les choses auxquelles les hommes de cette époque ont assisté, un récit historique au sujet de la manifestation du don prophétique durant la période de la proclamation du premier ange et aboutissant au fardeau étant confié à Mademoiselle Ellen G. Harmon, plus tard, qui s'appellerait Madame White. C'est d'ailleurs ce que nous lisons ici, dans cette conclusion de cet extrait. Le don de prophétie tel qu'il s'est manifesté à travers Mademoiselle Harmon, aujourd'hui Madame et E.G. White, mariée à l'ancien James White en août 1846, ce don de prophétie tel qu'il s'est manifesté à travers elle est lié au message du troisième ange depuis environ 65 ans, disait-il en 1911. 65 ans. Et maintenant, bien entendu, on accumule toutes ces choses, mais il disait cela de son vivant à lui et du vivant à elle, parce que Sœur White est morte en 1914. Alors qu'en 1945, il semblait qu'elle n'avait que quelques jours à vivre. Et donc, comme vous voyez ici, nous allons continuer cette étude. Cela n'en est que le début. Comme vous voyez ici, le taux d'ancienneté de ces personnes dans l'œuvre du message du troisième ange, n'est-ce pas risible que des personnes qui ne sont à peine âgées que de 22 ans, 30 ans, 40 ans même, aujourd'hui s'arrogent le droit de critiquer les choses pendant la révélation desquelles ils n'étaient même pas nés, qui n'ont même pas pu voir de leurs propres yeux, examiner de leurs propres yeux avec des médecins qualifiés à leur côté, etc., etc. Et ce sont précisément les choses que nous voulons examiner aujourd'hui en faisant la comparaison entre les choses que nous voyons dans la Bible et les choses qui ont été manifestées telles que les témoins nous l'ont relaté dans le don de prophétie manifesté dans la vie d'Ellen G. White. Et donc, ce que nous aimerions faire, frères et sœurs, je ne sais pas comment je vais arranger ça vis-à-vis du temps, mais nous allons voir. Si j'ai besoin de le couper en deux, je le ferai. Pour le moment, nous allons poursuivre. Nous voulons tout d'abord examiner et faire des comparaisons des caractéristiques d'un vrai prophète. Pour cela, j'aimerais tout d'abord attirer votre attention vers les paroles d'un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. Là, nous allons dans les détails de ce sujet qui peut sembler rébarbatif pour certains, mais qui, je sais, est absolument essentiel pour tous. Pas pour certains, mais pour tous. Parce que j'ai remarqué, tant de la part de ceux qui doutent de la dignité de foi des écrits de Sir White en tant que le don prophétique, ainsi que de la part de ceux qui prétendent y croire, que les uns comme les autres sont ignorants la plupart du temps. Et nous voulons ici, par la grâce de Dieu, remédier à cette ignorance, non pas en répétant des arguments qui ne sont pas étayés par des témoignages historiques et oculaires, mais justement en ayant recours à la fois à la parole de Dieu et au récit historique qui nous relate quelle était la nature des manifestations du don de prophétie dans la vie d'Ellen G. White. C'est ça que nous voulons faire. Et donc, nous voulons commencer tout d'abord par un examen de la parole de Dieu auquel nous allons pouvoir ensuite ajouter certaines lectures du livre de Loughborough. Je me tourne vers le passage d'1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 14. Tout d'abord, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14, ensuite verset 16 jusqu'à 20. Nous vous en prions aussi, frères, reprenez ceux qui sont déréglés, consolez ceux qui ont le cœur abattu, supportez les faibles et soyez patients envers tous. Verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. N'éteignez point l'esprit, ne méprisez point les prophéties. Et verset 21 d'ailleurs, qui est important, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et donc, nous avons cette exhortation ici dans le contexte d'une exhortation plus générale dans laquelle l'apôtre Paul, sous l'esprit d'inspiration, exhorte ses frères à non seulement reprendre ceux qui sont déréglés, mais à consoler ceux qui ont le cœur abattu, à supporter les faibles, à être patient envers tous. Nous avons cette exhortation du verset 19 jusqu'au verset 21 d'ailleurs, où il nous dit « N'éteignez point l'esprit ». C'est très intéressant parce que l'activité de l'esprit dans sa manifestation à travers le don de prophétie est inséparablement liée à ces autres exhortations dans lesquelles il dit « Faites cela, consolez, supportez, encouragez, soyez patients envers tous, soyez joyeux, toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. » Vous voyez ? Parce qu'il y a un seul fruit de l'esprit. Vous comprenez ? Il y a plusieurs fruits de la chair, mais il y a un seul fruit de l'esprit. Et ce fruit de l'esprit se manifeste par différentes manifestations, justement. Et l'une de ces manifestations de l'esprit que nous sommes exhortés à ne point éteindre, c'est celle des prophéties. Donc nous avions déjà vu tout cela à travers notre première, deuxième et troisième étude sur notre besoin d'un prophète, sur la place du don prophétique dans l'Église évangélique. Je ne reviens pas sur toutes ces choses. Nous avons établi un fondement solide, j'ose espérer, par la grâce de Dieu et notre étude de sa parole. Et maintenant, nous voulons examiner ce sujet, non pas d'une manière très étroite dans notre vision où tout ce que nous cherchons à faire, c'est à faire que les gens arrive à notre propre aveu que Sir White est la prophète, etc. Non, c'est pas ça, c'est pas juste ça. C'est de voir que si nous éteignons l'esprit dans une de ces manifestations, nous l'éteignons inévitablement dans toutes les autres. Vous comprenez? C'est pour ça que lorsque vous voyez des hommes qui marchent dans l'église avec leur esprit de suspicion et qui cherchent à jeter les semences du doute au sujet de l'inspiration des écrits de Sir White, eux-mêmes manquent de l'esprit dans les autres manifestations, de la patience, de l'amour, de la bienveillance, de la compassion. Pourquoi? Parce que lorsque vous l'éteignez dans un endroit, vous l'éteignez partout. C'est comme un disjoncteur. Vous comprenez? C'est ça que j'aimerais que les frères et sœurs, à travers cette petite influence de ce minuscule ministère, puissent saisir. Que nous puissions le saisir ensemble, et que ainsi, le saisissant ensemble, nous puissions embrasser ensemble les conseils de l'esprit de prophétie, afin que les conseils puissent avoir leur potentiel complet. Pas que nous pointons les doigts en disant « tu ne crois pas à l'esprit de prophétie », etc. Nous sommes déjà en train de l'éteindre. Maintenant, nous voulons poursuivre à travers les paroles de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32. Et là, c'est très intéressant. Où il est écrit, 1 Corinthiens 14, verset 32, « Or, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. » Car, verset 33, « Car Dieu n'est point pour la confusion, ou n'est point un Dieu de confusion, mais pour la paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. » Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, à savoir, le don prophétique manifesté dans un prophète doit pouvoir être comparé à ce même don manifesté dans d'autres prophètes. Et en l'occurrence, les prophètes qui viennent après le canon biblique doivent être comparés, leur esprit est soumis, s'ils sont de véritables prophètes, aux prophètes qui nous sont relatés, montrés dans la Bible. Voyez, c'est ainsi que nous sommes appelés à comprendre que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, à savoir les esprits des vrais prophètes sont comparables à l'esprit des vrais prophètes que nous trouvons dans la parole. Et c'est ainsi que nous avons le fondement pour notre compréhension de la comparaison que nous cherchons à faire ici à travers cette étude. Et donc, ce que j'ai fait ici, frères et sœurs, je vous le dis avant de me plonger dans cette liste, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 5 points. À savoir que le premier point est divisé en 1, 2, 3, 4 points et que le cinquième point est divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Alors, c'est très peu probable que je vais terminer aujourd'hui, mais c'est pas grave, je vais faire une deuxième partie plus tard. Mais le but de cette étude, frères et sœurs, c'est plus une étude qu'un sermon, c'est que nous puissions intelligemment asseoir notre foi dans notre assurance que bel et bien nous trouvons dans la vie d'Ellen G. White le don prophétique de Dieu manifesté dans toute sa totalité. Toute sa totalité, pourquoi je dis cela? Parce que Dieu a réservé cette révélation unique pour les derniers jours afin de préparer un peuple pour le retour de Jésus-Christ, afin que de le préparer à tel point qu'il puisse être dit d'eux qu'il n'y a point, il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Apocalypse chapitre 14, verset 4 et 5. Premier point. Le premier point se décline en 1, 2, 3, 4, 4 autres, à savoir, sous le premier point, j'ai A, B, C, D. Et voilà ce que nous avons dans le premier point A, c'est-à-dire 1 A, au sujet de la condition physique de la personne durant la vision. C'est la comparaison que nous voulons établir. Tout d'abord, nous nous tournons vers les paroles de 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Et ici, nous pouvons comparer, commencer à comparer tel comment s'est manifesté ce don prophétique dans les exemples que la Bible nous fournit. Et à travers ces points de référence, nous allons pouvoir nous tourner vers le récit historique des visions d'Ellen White et comparer les deux. De Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4, nous lisons. L'apôtre Paul disait, lui-même qui a reçu de nombreuses visions, ici il exprime, certainement, il ne me convient pas de me glorifier, car j'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a plus de 14 ans, fut ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans le corps ou si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme fut ravi dans le paradis et y entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas possible à l'homme d'exprimer. Et Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 2, nous allons récapituler ce que nous sommes en train ici de constater. Nous lisons également dans Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 2. Donc nous avons lu au sujet de l'expérience de l'apôtre Paul, il parlait de lui bien entendu, et ici nous lisons au sujet de celle de l'apôtre Jean dans Apocalypse 4, verset 1. Après cela, il dit, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme celle d'une trompette et qui parlait avec moi, dit, monte ici. Et je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celles-ci. Et aussitôt je fus ravi en esprit, et voici un trône était dressé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur ce trône. Donc vous avez cet exemple d'être ravi en esprit. Ou du moins, comme l'apôtre Paul l'a exprimé en ses propres termes, l'impression d'être ravi au ciel, il disait, je ne sais pas si c'est dans le corps ou hors du corps, ça je ne sais pas, Dieu le sait. Donc il disait, j'ai l'impression de monter au ciel. Et l'apôtre Jean dit, je fus ravi en esprit. Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul, il disait, je ne sais pas si je suis allé dans le corps ou juste dans l'esprit. Et l'apôtre Jean, il dit, ah, moi je sais, je fus ravi en esprit. Et donc, est-ce que le corps de Paul fut ravi au ciel? Lui, il ne le savait pas parce qu'il n'était plus, il ne voyait plus son corps. Tout ce qu'il voyait, c'est qu'il voyait la vision. Mais l'apôtre Jean nous a éclairé sur la nature du corps des prophètes pendant la vision, à savoir, il a décrit ceci en ces trois mots, je fus, je cite, ravi en esprit. Vous le voyez? Et maintenant, j'aimerais attirer votre attention vers le témoignage des visions, de comment se passaient les visions de Sir White. Dans, encore une fois, le livre de Loughborough, à la page 41, paragraphe 3, jusqu'à la page 42 et un peu de la page 44. Voilà le témoignage qui nous est rendu. Cependant, avant de procéder à des comparaisons, il convient de décrire la manifestation elle-même telle qu'elle s'est manifestée en la personne de Madame White. Dans les détails que je m'efforce maintenant de donner, il n'y a jamais eu de variation dans les nombreuses visions dont l'auteur a été témoin. Donc lorsqu'il dit l'auteur, c'est lui, John N. Loughborough, qui est mort, je crois, donc ce livre a été édité en 1911, je crois qu'il est mort dans les années 1920. Donc cet homme, c'était un homme, il a vécu longtemps. Et toute sa vie, il a passé dans le message du troisième ange et il disait, lui disait. Donc, il n'y a pas plus de, il n'y a pas de meilleure référence que cet homme-là. D'accord? Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Ils croient qu'ils savent tout. Ils ne savent rien du tout. Hein? Si vous voulez savoir quelque chose, lisez ces hommes-là. Si vous n'avez pas lu leurs écrits, fermez votre bouche. C'est le conseil qu'on peut donner. Et donc, cet homme, il dit ici, il n'y a dans les détails que je m'efforce maintenant de donner, il n'y a jamais eu de variation dans les nombreuses visions dont l'auteur a été témoin. Et à un autre endroit, je crois qu'il dit qu'il a été témoin de au moins une quarantaine de visions de Sir White. Sachant que des fois, les visions de Sir White, elles pouvaient durer pendant 6 heures de long. Donc, et dans toutes les visions dont il a été témoin, il dit que cette chose qu'il va décrire, c'était une constante, c'est-à-dire que c'était toujours de cette manière que la vision avait lieu. C'est-à-dire que la vision avait certaines choses différentes, mais ce qu'il décrit ici, c'était les constantes qui étaient toujours la même chose à chaque fois que Sir White était ravi en vision. Notez bien. Maintenant, il explique. Lorsque la bénédiction de l'Esprit du Seigneur tombait sur elle avec puissance, elle poussait trois cris en prononçant le mot gloire. Donc l'esprit descendait sur elle avec puissance. Alors, systématiquement, c'est toujours ceci qui se passait. Que faisait-elle? Elle poussait trois cris en prononçant le mot gloire. Le premier cri, pour autant qu'on puisse le décrire, semblait provenir de la partie supérieure de la pièce. C'est-à-dire, c'est comme si le cri, sa bouche bougeait. Mais le cri semblait venir d'autre part que de sa cage thoracique. Semblait provenir de la partie supérieure de la pièce et était accompagné de frissons de la puissance du Seigneur, affectant toutes les personnes présentes dont le cœur était sensible à l'Esprit de Dieu. Le deuxième cri venait de plus loin. Et l'impression de l'esprit sur les personnes présentes était plus profonde. Le troisième cri ressemblait à celui d'une voix au loin, comme si celle-ci devenait inaudible. La présence de l'esprit se faisait alors encore plus ressentir, rappelant le jour de la Pentecôte où l'esprit remplit toute la maison où ils étaient assis. Il cite Actes chapitre 2, verset 2. Il poursuit. Après le troisième cri, pendant une demi-minute ou plus, 30-40 secondes, il y avait une perte totale de force, c'est-à-dire Sir White perdait totalement ses forces. Si la puissance de l'esprit venait sur elle lorsqu'elle était debout, elle semblait retomber lentement au sol comme si des mains invisibles la déposaient délicatement. Lorsqu'elle était en pleine vision, ses battements de cœur et son pouls étaient naturels, mais les examens les plus minutieux effectués par des médecins ne permirent jamais de déceler la moindre particule de souffle dans son corps. Pas de souffle, pas de souffle. La couleur de son visage était naturelle, ses yeux étaient ouverts, regardant toujours vers le haut, non pas d'un regard vide ni dans une position stationnaire, mais en se tournant d'un côté à l'autre dans différentes directions. La seule différence avec le regard naturel étant celle d'une personne qui regarde intensément un objet au loin. Après un moment de faiblesse, une force surhumaine s'emparait d'elle. Elle se levait parfois et parcourait la pièce en bougeant gracieusement les bras à droite ou à gauche, mais quelle que soit la position du bras, il était impossible à un homme fort de le bouger d'un seul pouce ou d'un seul centimètre. Donc, qu'est-ce qui se passait? Elle était ravie. Elle exprimait ses trois premiers cris. Ensuite, tout d'un coup, nous avons vu, tout d'un coup, il y avait une perte totale de force. Après le troisième cri, pendant 30 ou 40 secondes, il y avait une perte totale de force. Si elle était debout, elle semblait tomber lentement comme si des mains invisibles la déposaient délicatement. Lorsqu'elle était en plein dans la vision, son cœur battait. On pouvait sentir son pouls. Toutefois, avec les examens les plus minutieux par plusieurs médecins qui effectuèrent ces examens à de nombreuses reprises, on ne pouvait déceler la moindre particule de souffle dans son corps. C'est-à-dire, il mettait quelque chose devant sa bouche, et même quand elle parlait très fort, on va le voir après, il y avait aucun souffle. Il y avait juste, c'était comme si c'était des enceintes, et il n'y a rien qui sort. Même des enceintes, vous sentez le souffle. Que ça bouge. Et pour elle, il n'y avait rien du tout. Et ensuite, après un moment de faiblesse, que nous avons vu juste avant, une force surhumaine s'emparait d'elle. Elle se levait parfois, elle parcourait la pièce et son bras devenait impossible à bouger. Elle qui était la plus faible des faibles, n'est-ce pas? Donc une femme, si vous voulez bouger son bras, vous prenez un homme fort, vous n'aurez pas de difficulté à bouger son bras. Vous le descendez directement. Les hommes, ils arrivaient avec toute leur force, ils n'arrivaient même pas à bouger le bras. C'est vrai, mes frères et sœurs, il faut se réveiller un peu. Si nous disons cela, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Si c'est vrai, alors faut réfléchir. Faut réfléchir. Et nous allons voir d'ailleurs comment nous trouvons cela dans la parole de Dieu. C'est ce que je veux faire justement. Est-ce que j'ai lu la totalité? Il y a marqué ici, les examens les plus minutieux réalisés sur Madame White pendant qu'elle était en vision ont amené les plus sceptiques à conclure qu'elle était inconsciente de tout ce qui l'entourait. Est-ce que c'était ce que l'on lisait au sujet de l'apôtre Paul? Il disait, si c'était dans le corps ou hors du corps, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que il était inconscient de tout ce qui l'entourait. Il n'était plus capable de dire s'il était sorti de la terre ou s'il était encore sur la terre parce que tout ce qu'il voyait, c'était la vision. Et l'apôtre Jean aurait peut-être été dans la même dilemme, si ce n'était Dieu qui lui avait révélé qu'il était ravi en esprit et non pas encore. Vous voyez? Je fus ravi en esprit. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. C'était cela la vision. Et ainsi que toutes les autres visions que l'apôtre Jean a reçues d'ailleurs dans l'Apocalypse, qui fut très très nombreuse pour que nous ayons toutes ces informations ici. Et donc je poursuis, si on lui piquait, c'est-à-dire, voilà un des examens qui avait été appliqué à Sir White. Si on lui piquait les mains avec des aiguilles, elle n'opposait pas la moindre résistance. Une bougie allumée approchée soudainement de ses yeux au point de lui brûler même les sourcils, ou même l'extrémité du doigt approchée de la pupille de son œil ne produisait pas la moindre résistance. Donc, les médecins sont. C'est ça que les adventistes ont fait, mes frères et sœurs. Il faut se réveiller. Elle partait en vision et ils ont sollicité de nombreux médecins pour vérifier que c'était bien quelque chose de surnaturel, pour mettre à l'épreuve l'authenticité du phénomène surnaturel. Et ils venaient près de lui et ils prenaient des aiguilles et ils piquaient la main avec des aiguilles. Aucune réaction. Ensuite, ils apportaient une bougie devant ses yeux au point même qu'ils arrivaient à brûler ses sourcils et aucune réaction. Ou même, quelqu'un venait avec le bout de son doigt pour toucher la pupille de son œil, aucune réaction. Cela ne produisait pas la moindre résistance et ne la faisait pas vaciller le moins du monde. Les personnes qui ont procédé à ces expérimentations se sont exclamées « Elle ne sait rien de ce qui se passe autour d'elle. » Maintenant, nous voulons nous tourner vers le point 1B. Donc, c'est la deuxième déclination du point 1. J'ai appelé ça les 5 points Daniel. 5 points Daniel, tournez-vous avec moi vers les paroles de Daniel, donc chapitre 10, verset 4. Daniel, chapitre 10, verset 4. J'ai décidé d'aller en détail dans cette étude, non pas parce que j'ai rien à faire, j'ai plein de choses à faire, mes frères et sœurs, mais parce que je suis fatigué des personnes qui croient qu'ils savent des choses alors qu'en réalité ils ne savent que trop peu. Et j'aimerais donner à tous l'opportunité d'avoir les éléments suffisants pour parvenir à des conclusions intelligentes, pas juste des suppositions. Hein? Souvent, les gens s'accrochent à des petites pensées. C'est pas suffisant, mes frères et sœurs. C'est du sable, tout ça. Il faut que vous ayez tous les éléments. Après, dites-moi. Généralement, si les gens ont tous ces éléments-là, ils ne vont même plus ouvrir la bouche. Ils ne viendront même plus au frère Victor pour lui dire « Ah ça, je suis pas, j'ai des doutes ». Ils ne vont même pas oser, ils ne vont rien me dire. Pourquoi ? Parce que si nous regardons honnêtement ces choses-là, nous n'aurons plus aucune excuse pour avancer nos doutes. Et nous verrons réellement que nos doutes sont issus de notre chair, non pas de notre homme spirituel. C'est ça que nous voulons parvenir à discerner. Donc, dans ces 5 points Daniel, nous voulons, afin de pouvoir les énumérer tout d'abord, nous tourner vers ce passage de Daniel chapitre 10, verset 4. Et l'autre motivation, c'est que nous puissions être ensemble animés de cette assurance et de cette confiance dans la dignité de foi des écrits et des témoignages de Jésus dans l'esprit de prophétie. Parce que lorsque nous avons cette assurance, alors tous ces témoignages prennent et assument pour nous une capacité à nous transformer parce que nous voyons dans ces choses, ces déclarations, nous entendons la voix de Jésus. Alors que si nous sommes animés d'un doute, nous disons, ouais, je suis pas trop sûr, la personne, là, un peu le diable et tout, etc. Nous annulons, nous éteignons l'esprit. Et donc, dans cette situation, le Seigneur ne peut pas faire en nous ce qu'il pourrait faire si nous avons la pleine assurance. C'est donc un des objectifs de cette étude terminale et finale au sujet de l'esprit de prophétie et du don prophétique. Dans Daniel chapitre 10, versets 4 à 11, nous lisons au sujet de la vision que reçut Daniel ici lorsqu'il était au bord du grand fleuve qui est l'Idékel. Verset 4, je lis. Et le 24e jour du premier mois, j'étais sur le bord du grand fleuve qui est l'Idékel. Et je levais les yeux et je regardais, et voici, je vis un homme vêtu de lin et dont les reins étaient ceints d'une ceinture d'or fin d'uphase. Son corps était comme chrysolite. Son visage brillait comme un éclair, ses yeux comme des lampes allumées, ses bras et ses pieds paraissaient comme de l'airain poli, et le bruit de ses paroles était comme le bruit d'une multitude. Et moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais une grande frayeur tomba sur eux et ils s'enfuirent pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision et il ne me resta plus de force. Mon visage changea de couleur et fut tout défait et je ne conservai aucune force et j'entendis la voix de ses paroles et quand je l'eus entendue, je tombai assoupi et la face contre terre et voici une main me toucha et me fit mettre sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, fais attention aux paroles que je te dis et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et quand il m'eut dit ces paroles, je me tins debout en tremblant. Ensuite, le verset 15, nous lisons. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je tenais mon visage contre terre et je restais muet. Et voici quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme toucha mes lèvres. Alors j'ouvris la bouche et je parlai et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, par la vision, l'angoisse m'a saisi et je n'ai conservé aucune force. Et comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, il n'y a plus en moi aucune force et il ne me reste plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia et il me dit, ne crains point, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Prends courage. Et comme il me parlait, je repris courage et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Et ensuite, il dit, au verset 20 et 21, il dit, vous voyez que c'est pas Jésus, que c'est l'ange qui s'adresse à lui, parce que ensuite il dit, et j'annoncerai ce qui est écrit dans le livre de vérité, il n'y a personne qui me soutienne contre cela, c'est-à-dire le chef de Perse, sinon Michael, votre chef. Donc Michael, c'est Jésus, on avait déjà vu cela, et il dit, donc, c'est pas, moi je suis pas Michael. Donc, cette personne qui est révélée à Daniel, ce n'est pas Jésus, c'est l'ange. Et on voit à un autre endroit que cet ange qui lui est révélé, c'est l'ange Gabriel, mais je n'ai pas le temps ici de vous montrer. Si d'ailleurs, vous pouvez le voir dans Daniel chapitre 9, verset 10, je parlais encore de ma prière quand cet homme Gabriel, que j'avais vu en vision auparavant, vint à moi d'un vol rapide. Et c'est cette même ange qui revient à lui ici dans cette vision de Daniel chapitre 10, verset 4, jusqu'au verset 21, etc. D'ailleurs, ça continue tout le long de Daniel chapitre 11. C'est la même vision en fait. Daniel chapitre 10, 11, c'est la même vision. Et donc, ici, nous voulons observer les cinq points Daniel. Hein? Je vais vous les énumérer, on va les retrouver dans ce passage que nous avons parcouru. Tout d'abord, et cela va nous renvoyer vers ce que nous avions lu au sujet de la manifestation des visions, des visions qu'a eu Sir White et des phénomènes qui ont eu lieu lors de ces visions. Le premier point, c'est la perte de force. Vous le voyez au verset 8. Daniel disait, je restais seul et je vis cette grande vision. C'est un ange se présente à lui, c'est une grande vision, il dit. Il voit un ange de Dieu, c'est une grande vision. Si vous voyez un ange, ça vous fait cela. Si vous voyez Dieu, vous mourrez. Si vous voyez un ange, ça vous fait cela. Ça va encore que c'est pas Dieu. Et verset 8, je restais seul et je vis cette grande vision, il ne me resta plus de force. Mon visage changea de couleur, je fus tout défait et je ne conservais aucune force. N'est-ce pas? Et nous lisions au sujet de Sir White, qu'est-ce que c'était? Je vais faire le parallèle tout de suite parce que, avant que nous oublions. À savoir, après le troisième cri, pendant une demi-minute ou plus, il y avait une perte totale de force. Ok. Deuxième point, en dessous du point B, le prophète voit un ange. Versets 5 à 7, c'est ce que nous voyons. Je levais les yeux et je regardais, et voici, je vis un homme vêtu de lin, dont les reins étaient, etc., son corps était comme un chrysolite, etc. Bon. On dit que c'est un homme, mais en réalité, c'est pas un homme. C'est un ange. Il a une figure d'homme, mais c'est pas un homme. C'est pas un homme. Le seul homme qui est comme nous, dans le sens d'homme, venu dans la chair, c'est Jésus. Les anges sont des anges. Mais il a une ressemblance à l'homme. C'est dans ce sens que c'était un homme. Mais en réalité, il s'agissait de cet homme Gabriel, du verset 21 du chapitre 9. Il faut juste comprendre le langage. Donc, l'un des cinq points Daniel, c'est perte de force. Le prophète voit un ange. Le numéro 3, l'ange pose sa main sur lui. Verset 10. Et voici, une main me toucha et me fit mettre sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Ok ? Numéro 4, le prophète est surnaturellement fortifié. Donc d'abord, il perd la force, numéro 1. Deuxièmement, il voit un ange. Troisièmement, l'ange pose sa main sur lui. Quatrièmement, il est surnaturellement fortifié, versets 18 et 19. Alors, celui qui avait l'apparence, vous voyez, l'apparence d'un homme. Celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Parce que Daniel, il disait, comment je peux parler? Parce que je suis tout faible. Hein, il était trop faible. Vous êtes tellement faible, vous ne pouvez même pas lever la tête, quoi. C'était le genre de faiblesse, c'est-à-dire il perdit toute sa force en la présence de l'ange de Dieu. Et alors, cet ange le fortifie, et numéro 5, en dessous du B, pas de souffle dans son corps, verset 17. Maintenant, il n'y a plus en moi aucune force, il ne me reste plus de souffle. Plus de force et plus de souffle. Sauf que, comme on le voit dans la manifestation, dans les visions de Sir White, lorsqu'il regagne la force, il ne regagne pas le souffle. Ça. Je le lis ici, dans PGGC, le Prophetic Gift in Gospel Church, page 45 et paragraphe 1. Comme nous l'avons déjà dit, la première chose qui se produit lorsque Madame White entre en vision, c'est sa perte de conscience des choses terrestres et sa perte de force. Ok ? Premier. La première chose qu'elle voit est un ange brillant et glorieux qui pose sa main sur elle. 1, 2, 3. Voit un ange, l'ange pose sa main sur lui. Nous avons vu ici. Nous avons vu, ce sont les cinq points Daniel. Hein? L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Rappelez-vous. Elle est alors revêtue de force. Numéro 4. Elle se lève parfois, elle marche dans la pièce avec une grande Bible ouverte sur son bras gauche. Donc, je crois, sur son bras gauche, je crois que c'est au bout de sa main, moi. C'est pas certain. Parce que je sais que dans d'autres, à d'autres événements, elle levait la Bible au-dessus de sa tête. Donc, je crois que c'est ça que ça veut dire. C'est juste le langage ici qui porte à confusion. Donc, quoi qu'il en soit, c'est dans sa main, dans son bras, au bout de son bras, je crois que c'est ça que ça veut dire. Elle marche dans la pièce avec une grande Bible ouverte sur son bras gauche, ou peut-être c'est peut-être la grande Bible, elle est sur son bras, son avant-bras, je ne sais pas. Et tandis que ses yeux sont tournés vers le haut et loin du livre, donc elle regarde comme ça, de sa main droite, les feuilles du livre sont tournées d'une page à l'autre, ses doigts indiquant des passages qu'elle répète mot pour mot, bien que ses yeux ne soient pas une seule fois tournés vers eux, c'est-à-dire vers les passages, vers la page. Alors qu'elle parle et cite les Écritures, les examens les plus minutieux effectués par des médecins compétents n'ont pas permis de déceler la présence d'un souffle dans son corps. Ainsi, sur ces cinq points, ses visions ressemblent exactement aux visions de Daniel. Donc elle était comme ça, elle regardait de l'autre côté, en haut, elle pointait du doigt les passages et elle dictait. Elle dictait les passages sans les lire. Et elle plaçait le doigt exactement là où se trouvait le passage qu'elle dictait. Je poursuis. Pendant qu'elle était en vision, des médecins ont tenu une bougie allumée, donc nous avons vu cela, aussi près que possible de ses lèvres, sans la brûler, et bien qu'elle parlât avec beaucoup de force dans sa voix, pas un seul scintillement n'a été produit dans la flamme de la bougie. Un tel examen a été effectué par deux médecins à Rochester, New York, le 24 juin 1854. Après l'expérience, ils ont tous deux déclaré « La question est réglée. Il n'y a pas la moindre particule de souffle dans le corps de cette femme. » À une autre occasion, en 1853, un médecin voyant cette femme reprendre son souffle en sortant de la vision déclara « L'action ressemble exactement à celle du nouveau-né qui inspire pour la première fois, et c'est une preuve incontestable que pendant la vision, elle ne respirait pas. Quoi? Pendant la vision, elle ne respirait pas, pourtant son cœur battait. Comment vous faites cela, mes frères et sœurs? Comment vous faites cela? Comment vous faites pour que la personne, elle, son cœur bat, mais elle ne respire pas? Vous savez que notre cœur, il bat parce que nous respirons. Hein? L'oxygène, il est transmis dans le sang, il est transmis dans le sang à travers ce que nous, à travers les poumons. Si vous ne respirez pas, comment est-ce que votre cœur il va battre? Hein? Mais c'est ça la réalité, il faut se réveiller. Les gens, ils viennent me dire, ah, je suis pas trop sûr, ouais, j'ai des doutes là. Mais c'est parce qu'ils ont, t'as pas lu, mon frère, t'as pas lu. T'as pas lu, tu n'as pas cru, etc. Et maintenant, sur le point numéro, nous sommes sur le 1 et le point C. Donc 1C. Il s'agit des yeux, j'ai intitulé cela les yeux ouverts. Dans Nombre chapitre 24. Nombre 24. Versets 3, 4 et 16. Nous avons ce fameux exemple de Balaam. Donc, dans la parole de Dieu, vous avez plusieurs exemples qui vous permettent de bien cerner certaines manifestations qui sont propres à une vision d'un prophète, une vision d'origine divine, une manifestation du don prophétique. Et Balaam nous sert à mettre le doigt sur la question des yeux ouverts et de la l'état de transe. Au Nombre chapitre 24, verset 3. Et il prononça son discours sentencieux, donc Balaam, verset 2. Et Balaam, levant les yeux et vit Israël campé selon ses tribus, et l'Esprit de Dieu fut sur lui, il prononça son discours sentencieux et dit, oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme qui a l'œil ouvert, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui se prosterne, excusez-moi, et dont les yeux sont ouverts, verset 16. Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui connaît la science du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts. Et vous voulez me dire, mais ben, c'est quoi, pourquoi c'est important que les yeux soient ouverts? Et c'est un peu compliqué, non? Vous voyez quelque chose, mais vous avez les yeux ouverts. Hein? C'est-à-dire que vous voyez autre chose que ce que vos yeux voient. C'est ça la complexité. Et c'est ça qui relève du surnaturel. C'est-à-dire que le prophète en vision voit quelque chose, sauf que ses yeux ne sont pas fermés. Donc il a les yeux ouverts, donc il devrait voir ce que les yeux voient, mais il voit autre chose. Et nous le voyons ici, tel que c'est relaté au sujet de Sir White, bien entendu, à la page 46 du livre de Loughborough. Une autre caractéristique des visions rapportées dans la Bible se trouve dans le cas de Balaam. Nous lisons deux points. Donc elle cite, oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme qui a l'œil ouvert. Et là, ici, entre crochets, il dit, qui avait les yeux fermés, mais qui maintenant les a ouverts. Note de marge en hébreu. Qui avait les yeux fermés, mais qui maintenant les a ouverts. Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts. Ensuite, il dit ceci. Boothroyd traduit ainsi les versets 4 et 16, dans un état de transe, mais avec les yeux ouverts. Vous voyez? La traduction de Sparrow, en note de marge, est la suivante, entre guillemets, dans un état de transe, les yeux levés vers le haut. Comme nous l'avons déjà dit, les yeux de Madame White sont toujours ouverts pendant toute la durée de ses visions. Nous avons maintenant présenté sept points par lesquels ces manifestations à travers Madame White sont en accord avec les visions bibliques. Et maintenant, j'aimerais attirer votre attention vers la question de la mémoire des visions. Parce que c'est pas tout d'avoir des visions. Encore faut-il pouvoir se les rappeler. Vous vous êtes déjà demandé comment c'est possible qu'ils puissent se rappeler toutes ces choses? Hein? Bon, déjà qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui arrivent à écrire des romans sur des souvenirs très lointains. Mais imaginez, vous avez des visions pendant la nuit ou des visions même pendant le jour. Comment est-ce que vous faites pour vous rappeler exactement les choses que vous avez vues? C'est un peu la complexité de relater un rêve que vous avez eu pendant la nuit. Vous avez déjà essayé de faire cela? Et c'est pour ça que la question du récit des visions relève tout autant du surnaturel que les visions elles-mêmes. Je veux attirer votre attention vers les paroles de 1 Chronique chapitre 28. Parce que c'est pas tout que Dieu donne aux hommes des visions, mais encore faut-il qu'ils se rappellent les visions. Donc en fait, le don prophétique est impliqué non seulement dans les visions elles-mêmes, mais dans toute la suite de l'existence du prophète, dans sa nécessité de relater les choses que Dieu lui a révélées. Donc le don prophétique, c'est pas juste quelque chose de ponctuel, c'est une charge à vie, si tant est que la personne veuille bien endosser cette responsabilité. C'est pour ça que vous avez vu que en 1842 ainsi qu'en 1844, Dieu avait confié ou tenté de confier cette responsabilité à d'autres personnes que Sir White. Mais ces hommes ne voulaient pas des choses qui contredisaient leurs opinions préconçues. Hein? Ils ne voulaient pas porter, et comme c'était révélé à Hazen Foss, que cela entraînerait la persécution. Cela entraînerait des épreuves s'ils endossaient cette responsabilité de communiquer les choses que Dieu lui révélerait. Vous voyez, donc ce n'est pas juste Dieu lui confierait ce magnifique don d'être prophète. Non, c'est un fardeau d'être prophète. Vous voyez? Et c'est un fardeau à vie pour ceux qui acceptent de le porter. Dans 1 Chronique, chapitre 28, versets 10 à 12, nous avons besoin de vraiment prendre à cœur le poids de ce don prophétique et de réaliser que c'est un engagement tant de la part de Dieu que de la part de la personne acceptant la responsabilité, afin que nous puissions réaliser que nous ne sommes pas juste ici en train d'exalter une personne par-dessus une autre, nous sommes ici en train d'accepter la prérogative de Dieu de nous parler de la manière qu'il a cho lui-même choisie. 1 Chronique, chapitre 28, versets 10 à 12. Ici, vous avez David qui s'adresse à Salomon dans le contexte de la préparation de son fils pour la tâche qui sera la sienne. Hein, vous le lisez au verset 1, etc. Il disait au verset 5, entre tous mes fils, l'Éternel a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Et il m'a dit, Salomon, ton fils est celui qui bâtira ma maison et mes parvis. Okay? Et ensuite, nous nous tournons vers le verset 10, où David s'adresse directement à Salomon. Et voilà ce qu'il dit. Je vous invite à être attentif. Il dit, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour bâtir une maison pour son sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Puis David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et du lieu du propitiatoire. Et le modèle de toutes les choses qu'il avait dans l'esprit pour les parvis de la maison de l'Éternel, pour les chambres d'alentour, pour les trésors de la maison de Dieu et pour les trésors des choses saintes. Et ici, dans le verset 12, avant que je lise le verset 19, je vous le lis tel que c'est écrit. Non, je vais vous le lire après. Je vais d'abord lire le verset 19. Verset 19 du chapitre 28. Tout cela, dit David, est en écrit de la part de l'Éternel qui m'en a donné l'intelligence, savoir de toutes les œuvres de ce modèle. Donc, tout comme à Moïse, Dieu avait donné à David, je cite, l'intelligence de toutes les œuvres de ce modèle de à quoi ressemblerait le temple de Dieu à Jérusalem, hein, le temple en dur. Jusqu'ici, il n'avait pas eu de temple. David, d'ailleurs, le disait, moi j'ai une maison, mais toi, je ne t'ai pas fait une maison. Après, Dieu lui dit, mais toi, tu es un homme de sang, donc tu ne vas pas la construire. Ton fils, oui. Hein? Et ensuite, David disait, voilà à quoi ressemblera le temple parce que l'Éternel me l'a montré. Vous voyez? Et remarquez ici, tel que c'est écrit, c'est verset 19 et verset 12 dans la Bible Darby. C'est très intéressant et très important à la fois. Le verset 19 est écrit, se lit ici, ainsi dans la Bible Darby. Tout cela, dit David, toute l'œuvre du modèle, il m'en a, par écrit, donné l'intelligence par la main de l'Éternel sur moi. Donc, vous avez ici, et verset 12, ce qui est complémentaire, voilà comment c'est écrit dans la Bible Darby, et le modèle de tout ce qu'il avait par l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel, etc., etc. Comment est-ce que Dieu, ou de dire comment est-ce que David a reçu l'intelligence au sujet de toutes ces choses, c'est l'Éternel qui lui en a donné c'est le modèle de tout ce qu'il avait reçu par le Seigneur, par l'Esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel. Donc il s'agit ici de l'activité de l'Esprit par la main de l'Éternel sur David, et donc sur le prophète, pour non pas seulement révéler, mais rappeler au prophète toutes les choses que Dieu lui a préalablement révélées. Vous voyez? Si vous regardez bien attentivement ces versets 12 et verset 19, côte à côte, c'est ainsi que nous comprenons la manière de fonctionner de Dieu, et c'est précisément ce que nous voyons confirmé dans la vie de Sir White à travers le livre du frère Loughborough à la page 47 jusqu'à la page 48 où il est écrit ceci. Un neuvième point de comparaison concerne la retranscription par écrit des choses qui avaient été montrées précédemment en vision. Dans le premier livre des Chroniques, nous avons un récit de David préparant son fils Salomon à construire le temple de Jérusalem. Il parle de nombreux détails concernant l'édifice, ses chambres, ses trésors, ses parloirs, son mobilier et son service. Il dit que c'était le modèle de toutes les choses qu'il avait par l'Esprit. Le Seigneur lui avait montré par l'Esprit, comme à Moïse, le modèle de cet édifice qui était, entre guillemets, l'ombre des choses célestes. Et tout devait être fait aussi exactement que le modèle. Tout devait être écrit pour l'instruction de Salomon. David nous explique comment cela s'est fait, entre guillemets. Tout cela, dit David, toute l'œuvre du modèle, il m'en a par écrit donné l'intelligence par la main de l'Éternel sur moi. Le Seigneur lui avait montré ces choses en vision. Lorsque David se mit à les écrire, l'Esprit de Dieu les présenta clairement à son esprit et c'est ainsi qu'il les mit par écrit. Vous voyez? Donc l'Esprit vient sur le prophète, ici notamment David, en vision, il lui révèle certaines choses, et plus tard, l'Esprit revient par la main de l'Éternel sur le prophète pour lui rappeler les choses qu'il lui avait montrées en vision. Vous voyez? Et vous voyez exactement cette ligne de fonctionnement divin interrompue dans le cas de Hazen Foss. Il avait reçu la vision, ensuite il a rejeté l'appel du Seigneur, ensuite il a essayé de relater la vision et la vision lui avait échappé. Pourquoi? Parce que l'esprit est né, la présence de l'esprit sur le prophète est nécessaire non seulement lors de la transmission de la vision, mais également lors de la narration par le prophète de cette vision. Soit la narration orale, soit la narration par écrit. L'esprit est sans cesse requis, nécessaire dans la vie du prophète pour que le prophète puisse accomplir sa mission. Voyez? Donc voilà, j'ai fait le premier point avec ces cinq déclinaisons ABCD. Et ce que je vous propose, c'est que dans notre prochaine méditation, nous parcourrons les points 2, 3, 4, 5, avec les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec les 7 dernières déclinaisons du Point numéro 5. Donc voilà, c'est un peu, ça peut paraître compliqué, mais c'est juste la manière dont j'ai organisé la chose. Si vous voulez ces choses, moi, je crois que je vais marquer des notes par lesquelles vous pourrez vraiment avoir tout bien énuméré et que vous puissiez également en faire votre propre étude à l'aide non seulement des passages bibliques, mais des récits historiques du frère Loughborough qui nous aident énormément dans cette étude du don de prophétique manifesté dans la vie d'Ellen G. White. Donc ce que je vais faire, frères et sœurs, c'est que ce que je vous propose, c'est que nous allons faire une pause ici et que sous peu, je vais essayer cette semaine, cette nouvelle semaine qui s'annonce, de vous enregistrer la deuxième partie, donc hors du sabbat, pour clôturer cette méditation et que nous puissions poursuivre nos contemplations de la parole de Dieu avec un fondement encore plus solide ou, pour ceux qui n'avaient pas réellement ce fondement établi dans leur cœur, un nouveau fondement sur lequel nous allons pouvoir construire des choses solides dans notre vie individuelle et également dans notre vie d'église, à nous qui désirons nous préparer pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions réellement, avec le témoignage de Christ établi à la fois en nous personnellement et en nous en tant que corps de Christ, que nous puissions réellement être rendus irréprochables pour le retour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, puisse le Seigneur vous bénir en ce sabbat ou cette fin du sabbat selon où vous vous trouvez. Et puisse le Seigneur, par son esprit, encourager nos cœurs, nous fortifier, et face aux épreuves auxquelles nous sommes confrontés, nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Et si nous avons à cœur d'être pèlerins et voyageurs, nous avons avant tout celui qui a été sur la terre pèlerin et qui a obtenu la victoire. Prenez courage, mes frères et sœurs, comme dit un frère bien-aimé, courage dans le Seigneur, et nous surmonterons les pires obstacles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un très bon sabbat et à très bientôt. Amen.